Bon, alors vous alliez, je crois, commencer à m'expliquer un peu votre rôle et le champ des métiers. Oui.
C'est ça. Vous êtes ici à la Chambre de métiers du Loiret. Je ne sais pas s'il existe en Grande-Bretagne d'organismes similaires. Nous avons en France, dans notre secteur économique, trois grands organismes qui représentent, tout spécialement, les trois grandes activités économiques. Activités économiques que nous retrouvons dans tous les pays du monde d'ailleurs. Nous avons d'abord les chambres de commerce et d'industrie, qui représentent bien sûr et l'industrie et le commerce. Nous avons les chambres d'agriculture. Je n'ai pas besoin de vous dire le rôle de ces organismes. Et vous avez enfin les chambres de métier. Ces chambres de métier représentent ce que nous appelons en France l'artisanat. L'artisanat est l'ensemble des professions manuelles et qui forment ce secteur des métiers. Et étant donné qu'à ce secteur vient s'accoler une idée indépendante de la profession qui est l'importance de l'entreprise. Autrement dit, pour appartenir au secteur des métiers, par conséquent pour appartenir à la chambre de métiers, il faut en premier lieu exercer un métier manuel, plombier, serrurier, charcutier, maçon, couvreur, couturière, etc. Et deuxièmement, il ne faut pas que l'entreprise occupe plus de 5 compagnons. C'est cette particularité qui fait pratiquement le rôle des chambres de métier. N'est-ce pas ? Nous avons une double optique. Premièrement, le métier manuel. Deuxièmement, l'importance de l'entreprise. Cette double optique vous permet de séparer, dans une certaine mesure, les prérogatives des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métier. Prenons un exemple. Bien sûr, une entreprise peut se développer sans limitation de nombre d'ouvriers. Elle peut commencer petite et grandir. Bien. Une serrurerie, une entreprise de serrurerie ou de menuiserie qui occupera 4 ouvriers appartiendra au secteur des métiers, à la chambre de métiers. Si cette même entreprise grandit et occupe 10 ouvriers, elle passera dans le secteur industriel. On peut peut-être considérer que cette distinction est un peu artificielle. Pourquoi 5 ? Pourquoi la limite est-elle fixée à 5 ? Y a-t-il une différence entre l'entreprise qui occupe 5 ouvriers et celle qui en occupe 7 ? Bien sûr, c'est une question que l'on peut normalement se poser. Je ne m'arrêterai pas essentiellement à ce chiffre. Ce chiffre peut évoluer, demain il pourra être de 10. Ce que nous voulons simplement dire, c'est qu'il y a des problèmes spécifiques, des problèmes spéciaux à la petite entreprise qui ne sont pas tout de même ceux de la grosse entreprise. L'artisanat comprenant toutes les professions de métier manuel, nous estimons que le patron d'une entreprise artisanale doit encore avoir la responsabilité de la direction de l'entreprise et de toute la fabrication, de tout ce qui sort de son entreprise. Par conséquent, à partir du moment où, dans une entreprise, vous êtes obligé d'avoir des cadres intermédiaires, où le patron est bien sûr encore le directeur de l'usine, il ne peut plus être, comme nous le comprenons nous-mêmes, responsable de la fabrication, comme si cette fabrication était sortie de ses propres mains. D'autre part, sur le plan économique, il y a bien sûr des différences et des problèmes distincts pour la grosse entreprise et pour la petite entreprise. Sur le plan social également, sur le plan financier, les moyens financiers des petites entreprises ne sont pas les moyens financiers des grosses entreprises. La constitution de l'entreprise n'est pas la même. L'entreprise artisanale est presque à base d'entreprise familiale, alors que l'industrie est plus ou moins anonyme. Voyez-vous, résumer très rapidement les raisons qui ont motivé en France. Je dis bien en France parce que je crois que dans certains pays, et notamment en Grande-Bretagne et également en Belgique, il n'y a pas de secteur constitué des métiers ou de l'artisanat. Alors que par contre, en Allemagne, les Handwerkskammer, les chambres de métiers allemandes, ont une très très grosse importance. Il y a un artisanat très développé, avec une conception différente de la conception française. En Allemagne, c'est le métier qui est artisanal. Vous êtes serrurier, vous êtes donc artisan, même si vous employez 100 ou 500 ouvriers. La différence est là.
Est-ce que je pourrais vous poser un problème de définition, enfin un problème que moi je trouve, selon la définition que vous avez donnée, les ateliers Maillefert, que moi j'appellerais, je crois, un artisanat de très haute qualité, est qualifié quand même, ou défini quand même, comme étant une industrie, parce qu'il y a 10 ou plus de 10 salariés ou ouvriers. Alors, il n'y a pas de possibilité de définition selon la nature de...
Vous, la question que vous me posez est excellente. Et c'est une question qui m'embarrasse un peu. Non pas sur le plan juridique, puisque sur le plan juridique, nous avons une définition, n'est-ce pas ? Exercer un métier manuel, et il existe une liste de métiers arrêtée par une loi, et avec 5 compagnons au plus. Bon, nous sommes obligés de nous en tenir à ça. Mais la question que vous posez est excellente parce que, précisément, pour l'industrie que vous venez de, à laquelle vous venez de faire allusion, c'est, je dirais, une activité artisanale exploitée d'une façon industrielle. Mais c'est, je dirais, une exception. Parce que, voyez-vous, il y a un autre aspect artisanat-industrie que je peux évoquer, c'est celui de la fabrication individuelle, personnalisée. L'artisan, l'ébéniste, vous fera une commode, un placard, une coiffeuse pour vous. Il la fabriquera pour vous, suivant votre goût, suivant les dimensions qui vous sont imposées par votre logement, et il ne recommencera peut-être pas deux fois ce même meuble. C'est ce que nous appelons la fabrication personnalisée. L'industrie ne peut pas se permettre ça. L'industrie fera une coiffeuse, une table en série. Or, précisément, cette distinction qui peut dans certains cas rendre service pour séparer l'industrie de l'artisanat, cette distinction n'existe pas pour les ateliers Maillefert, où vraiment on travaille comme chez l'artisan.
Comment est-ce qu'on appellerait le travail qu'ils font aux ateliers Maillefert ? Fabrication de meubles anciens, on m'a dit.
Oui, c'est une très belle fabrication. La maison Maillefert exporte dans le monde entier. Une très belle fabrication. Eux-mêmes disent qu'ils sont artisans. Parce qu'ils ont l'esprit artisanal, la fabrication de la pièce unique, avec tout le soin que cela désire, que cela exige, voyez-vous. Mais c'est un grand atelier artisanal, voyez-vous. Mais nous ne pouvons pas le considérer, nous, comme appartenant à la chambre de métiers, parce que la définition légale nous l'interdit. Mais c'est une exception. C'est, si vous voulez, c'est une exception quand même à la règle générale. Mm-hmm. Voyez-vous? Oui. C'est pourquoi votre exemple est excellent.
Oui. J'ai un autre qui me paraît un peu différent. Je ne sais pas si c'est les établissements, je crois. Établissement Gouffaut. Monsieur Gouffaut est un manufacturier ou un fabricant, je ne sais pas trop comment il l'appelle, de vitraux.
Vitraux, oui. Vitrailliste.
Vitrailliste, oui. Est-ce que c'est aussi un artisanat ou...
Ça pourrait être... Il n'est pas inscrit, je ne pense pas que la maison soit inscrite au répertoire des métiers parce qu'elle occupe certainement plus de 5 ouvriers. Mais alors, là encore, ça rejoint un peu, comment dirais-je, la même explication que pour l'atelier Maillefer, et nous retrouverons cette même explication pour tous les métiers d'art. Voyez-vous, le métier d'art, qu'il soit exercé par une personne ou dans une entreprise avec 2 ouvriers ou avec 10 ouvriers, vous retrouvez encore là, non plus la fabrication de la machine, mais l'art de l'artiste. Alors, il n'y a plus de fabrication industrielle possible, c'est encore la pièce unique, et tout ce qui est art est à la limite, si vous voulez, de l'artisanat et de l'industrie, et même d'une profession libérale, car entre artisan et artiste, il n'y a pas tellement de différence, surtout dans les métiers que nous venons d'évoquer. Or, en France, l'artiste peintre n'est ni commerçant, ni artisan, ni industriel, il est artiste. Oui. Voyez-vous, ce domaine artistique est celui qui est le plus délicat et qu'on ne peut pas classer ou dans l'industrie ou dans l'artisanat, c'est presque le secteur artistique. Qui peut être exploité d'une façon artisanale ou d'une façon industrielle, car ceci peut être considéré comme une pièce artistique, mais on peut en faire 10 000. Et c'est la machine, le moule, qui va le faire, une empreinte, un pot, une deuxième empreinte, un pot. Ça, c'est dans l'industrie. Mais si le pot est tourné à la main, décoré à la main, si la décoration varie avec chaque pièce, nous retrouvons là l'art, l'artiste, l'artisan.
Est-ce qu'un électricien, qui fait des réparations à titre individuel, indépendant, serait aussi un artisan selon la définition?
Parfaitement. Oui. Parfaitement. Nous avons, si vous voulez, pour vous donner un très rapide aperçu, nous avons 6 catégories. La première catégorie qui est l'alimentation. Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, tripier, cuisinier, etc. Une deuxième catégorie, le bâtiment, avec le gros œuvre du bâtiment, les maçons, les peintres, couvreurs, plombiers, chauffage central, etc. Nous avons la troisième catégorie, le bois. Ébéniste, menuisier, tapissier, etc. Nous avons également, quatrième catégorie, le fer, mécanicien, électricien, taulier automobile, etc. Cinquième catégorie, le textile et le cuir, couturière, cordonnier, bottier, tailleur. Et une sixième catégorie, que nous appelons les divers, c'est-à-dire des gens qu'on n'a pas pu placer dans les 5 autres catégories. Nous y trouvons des imprimeurs, des bijoutiers, joailliers, photographes, coiffeurs, céramistes, etc.
Ah oui, ça c'est très clair.
Voilà,
oui.
Voyez-vous, les 6 catégories. Oui. Et alors ces métiers peuvent être exercés soit d'une façon artisanale, soit d'une façon commercial ou industriel, suivant l'importance de l'établissement.
Et oui, vous avez raison de le dire. Je ne pense pas qu'il y ait en Angleterre une organisation semblable à la Chambre des métiers. Donc, la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est le rôle de la Chambre. Pourquoi est-ce que les artisans sentent la nécessité de s'unir ou de se joindre à une chambre? Et quel est le rôle du Chambre des métiers vis-à-vis des artisans?
Alors, la Chambre de métiers est un établissement public. Et le timbre, le sceau de la Chambre de métiers, c'est la République française, exactement comme la mairie ou la préfecture. Nous sommes établissement public. Par conséquent, nous n'avons rien d'une organisation professionnelle syndicale. Car en France, le syndicalisme est facultatif. On peut appartenir au syndicat ou on peut ne pas appartenir au syndicat, mais on est affilié obligatoirement à la Chambre de métiers. C'est une obligation parce que la Chambre de métiers tient un registre de toutes les activités et de tous les artisans du département. Ce registre s'appelle le répertoire des métiers, comme il existe le registre du commerce. Et c'est la Chambre de métiers qui est désignée pour tenir ce registre. C'est obligatoire. Par conséquent, les buts de cet organisme public obligatoire ne sont pas les mêmes que ceux des organisations professionnelles. Premièrement, la Chambre de métiers s'occupe de tous les artisans, quelle que soit la profession à laquelle ils appartiennent. Nous avons vu les six catégories. Bien, c'est donc un organisme interprofessionnel. Si bien que notre activité ne consistera pas à nous occuper plus d'une profession ou d'une autre que de nous occuper de tous les problèmes qui sont communs à tous les artisans en tant que tels, parce qu'ils sont artisans, parce qu'ils sont petites entreprises et non pas parce qu'ils sont électriciens ou serruriers. Voyez-vous ? Alors, tous les problèmes de l'organisation du travail, l'organisation de l'apprentissage, car la Chambre de métiers a un très grand rôle en matière d'apprentissage, l'organisation du crédit, l'organisation des caisses d'assurance maladie, d'assurance sociale, etc., tout se fait au départ à la Chambre de métiers.
La Chambre de métiers est donc financée par l'État ou par les
Alors,
artisans?
La Chambre de métiers est financée par les artisans eux-mêmes. Il y a une taxe. Une taxe où il y a deux taux. Celui qui travaille seul et celui qui occupe du personnel. Alors, cette taxe est perçue par l'État sur la feuille d'impôt et l'État nous redonne chaque mois 1/12 des sommes qu'il a perçues. Nous sommes d'autre part subventionnés par le ministère de l'Éducation nationale parce que nous avons des cours professionnels, nous avons 1800 élèves dans tout le département, etc. Voyez-vous. Nous pouvons être subventionnés également par le ministère de l'Industrie pour les actions de promotion que nous faisons. Nous donnons à nos artisans qu'ils désirent des cours de gestion pour moderniser leur entreprise, pour leur apprendre à mieux répartir le travail, à établir des plannings, à établir des prix de revient, n'est-ce pas? Ça, voyez-vous, c'est tout à fait dans le rôle de la Chambre de métiers, parce que ça concerne l'établissement, la gestion de l'entreprise, que cette entreprise soit une entreprise d'électricité, de menuiserie ou de couture. Alors, par conséquent, nous avons des ministères qui nous subventionnent pour ces actions que nous faisons bien souvent en ces lieux et places.
Mm-hmm. Ah oui. Vous encouragez cette sorte de formation ou est-ce que vous attendez qu'on vienne ici vous le demander?
Vous savez que les petites entreprises, que ce soit les petites entreprises du commerce ou les petites entreprises de l'artisanat en France, ont besoin bien sûr d'un stimulant. Et c'est la chambre de métier qui prend l'initiative. Et nous informons nos artisans que nous organisons à telle date un cours de gestion ou un cours sur la comptabilité ou un cours sur la fiscalité et que ceux qui le désirent peuvent s'inscrire, que les cours auront lieu tel jour à telle heure. Voyez-vous ? Alors nous organisons non seulement des cours pour l'artisan maître, n'est-ce pas, pour le patron, mais également pour son épouse. Parce que le rôle de l'épouse de l'artisan dans la conduite d'une affaire est extrêmement important. C'est elle qui voit les clients, c'est elle qui voit les fournisseurs, c'est elle qui se préoccupe de l'approvisionnement des marchandises du magasin, etc. C'est elle qui tient la comptabilité, c'est elle qui fait la correspondance, n'est-ce pas ? Son rôle est extrêmement important et nous organisons également des cours spéciaux pour les femmes, pour les épouses d'artisans.
Ça, c'est intéressant. Oui.
Et puis alors, nous avons bien sûr toute la formation professionnelle des jeunes. Nous avons en France une loi qui est de 1937, qui est spéciale à l'artisanat, car cette loi de 1937 a confié l'apprentissage des métiers aux chambres de métiers. Par conséquent, c'est la chambre de métiers qui organise l'apprentissage des métiers dans son secteur, bien entendu. Si bien que tous les enfants, en sortant de l'école, passent dans nos entreprises avec un contrat d'apprentissage de 3 ans. Nous surveillons cet apprentissage. Ce sont nos professeurs qui donnent des cours à ces jeunes dans tous les chefs-lieux de canton du département. Nous allons donner des cours, une journée par semaine, et au bout des 3 années d'apprentissage, il y a l'examen de fin d'apprentissage. C'est la chambre de métier qui est chargée de tout cela. Nous avons même une autre fonction, toute récente d'ailleurs. Vous savez peut-être que la scolarité a été prolongée jusqu'à 16 ans. Autrefois, l'enfant sortait à 14 ans, et de 14 à 17 ans, pendant 3 ans, il était apprenti. Maintenant que la prolongation de la scolarité a été fixée à 16 ans, l'État nous a permis, pendant 2 années, de 14 à 16, de transformer un petit peu, ou d'adapter cette prolongation de la scolarité à une préformation professionnelle. Si bien que les enfants, nous avons donc maintenant une section, que nous appelons la section d'éducation professionnelle, qui est la scolarité obligatoire adaptée à la préformation. Si bien que les enfants sont toujours dans les entreprises, mais doivent pendant 2 jours par semaine revenir à notre école, n'est-ce pas, où nous leur apprenons non seulement leur métier, ceci je pense va vous intéresser, comme suite à l'allusion que vous faisiez tout à l'heure, mais nous voulons utiliser ces 2 années de prolongation de scolarité pour des jeunes qui ne sont pas tentés par l'école. Nous voulons leur apprendre à vivre et à être citoyens. Si bien que nous leur apprenons toutes sortes de choses, nous leur apprenons à téléphoner, nous leur apprenons à remplir les imprimés de sécurité sociale. Nous leur apprenons à faire les déclarations d'impôts. Nous leur apprenons à faire des traites bancaires. Nous leur apprenons à faire des virements postaux. Nous leur apprenons ce qu'est l'habitat, pourquoi les habitations sont différentes dans chaque région, etc., etc. Nous essayons de leur ouvrir l'esprit. Nous voulons profiter de ces 2 années de scolarité pour les orienter en même temps et sur un métier qu'ils ont choisi pratiquement, et sur leur vie d'homme ou de citoyen.
Oui. Et pour les patrons, pour les employeurs, c'est obligatoire d'envoyer ces jeunes adolescents à l'école?
Alors, pour les jeunes qui sont dans notre section d'éducation professionnelle de 14 à 16 ans, c'est l'obligation la plus absolue et c'est extrêmement grave. C'est comme si l'employeur, s'il s'y opposait, refusait d'envoyer son enfant à l'école. Et par conséquent, c'est absolument obligatoire. Pour les cours professionnels, c'est également obligatoire. Tout est obligatoire.
Est-ce que cela va être permanent ou est-ce que c'est une, quelque chose qui va...
Transitoire.
Oui, quelque chose de transitoire.
Alors, en ce qui concerne les sections d'éducation professionnelle, il nous a été dit que cette... car c'est tout récent, c'est de 1967,
oui. Oui, oui.
N'est-ce pas ? Il nous a été dit que c'était une formule transitoire et qu'en 1972... cette nouvelle institution disparaîtrait. Nous ne le pensons pas, personnellement, nous ne le pensons pas, parce que l'éducation nationale, il faut bien le dire, et elle le reconnaît elle-même, n'a pas tous les moyens financiers, moyens de personnel, pour prendre entièrement en charge les enfants de 14 à 16 ans. Par conséquent, nous pensons que cette formule transitoire sera prorogée. D'autant plus que nous nous adressons à des jeunes qui ne veulent plus de l'école. Il faut donc que ce soit notre enseignement à nous, axé sur un métier ou sur la vie active, sur les problèmes du jour, qui soit là comme une espèce d'attrait pour continuer à pouvoir leur apprendre encore, je ne dirais pas malgré eux, mais d'une façon un petit peu déguisée.
Oui.
Car
oui,
tous les enfants ne peuvent pas faire des études jusqu'à 25 ans.
Mm-hmm. Naturellement. Naturellement. Oui. Une autre question donc, puisque vous tenez le registre de tous les artisans, sans exception, vous pourrez peut-être me dire si, depuis je ne sais pas combien de temps, depuis plusieurs ans, est-ce que le nombre d'artisans reste le même ou est-ce que le nombre est en augmentation ou en diminution?
Eh bien, ce répertoire des métiers a été créé en 1962. Auparavant, il existait le registre de métiers qui était tenu par le greffier du tribunal de commerce, exactement comme pour le registre du commerce. C'est la même personne qui tenait à la fois le registre de commerce et le registre de métiers. À la suite de modifications, ce registre a donc été confié en 1962 aux chambres de métiers. Et en ce qui concerne le département du Loiret, le département du Loiret est un département moyen. Et pour les statistiques françaises, c'est très important parce qu'il représente à peu près la centième partie de la France. Un département tout de même assez équilibré, puisque à un moment donné, très récemment encore, nous avions un tiers d'agriculture, un tiers de commerce, d'industrie, d'artisanat et un tiers de ce que nous appelons de secteur tertiaire, d'administration. Voyez-vous, c'était très bien réparti. Nous avons actuellement dans le département du Loiret 7000 entreprises artisanales. Et ce chiffre aurait une légère tendance à diminuer comme dans toute la France. Ce n'est pas spécial à l'artisanat, c'est le phénomène général de la concentration. Le petit commerce a été beaucoup plus touché que l'artisanat. Beaucoup de petits commerces disparaissent chaque année. Dans notre région, dans le département du Loiret, on peut presque dire que le chiffre se maintient à 7000, avec une légère tendance à la diminution de l'ordre, je ne sais pas, de 15 ou 20 entreprises par an. Voyez-vous, c'est, je dirais, insignifiant. La tendance est un petit peu à la baisse. C'est le sort de toutes les petites entreprises dans notre monde industrialisé. D'autant plus que nous avons perdu nos artisans par suite de la disparition de métiers. Nous avons des métiers qui ont complètement disparu. Le maréchal ferrant. Nous avions 550 maréchaleries dans le département du Loiret, encore en 1940. Il n'y a plus maintenant.
Plus?
Ah non.
Mais comment est-ce qu'on fait pour ferrer les chevaux, donc, pour la chasse, par exemple?
Mais il y en a pratiquement... Alors, il y a un ou deux maréchaux qui se sont installés précisément, qui ont repris un peu de service pour ferrer les chevaux des clubs hippiques. Mais ça n'existe plus, n'est-ce pas? Le charron qui faisait la voiture en bois destinée à la culture, il n'y a plus de charron. Il n'y a plus de bourreliers, sauf des bourreliers de luxe pour les harnachements des chevaux de selle. Voyez-vous, les métiers qui ont disparu. Alors, bien sûr, le nombre d'entreprises tend à diminuer. Dans un pays comme l'Allemagne, où l'artisanat est extrêmement important, extrêmement florissant, nous voyons exactement la même chose. Par contre, voyez-vous, si le nombre d'entreprises diminue, le nombre moyen de compagnons, parce que l'ouvrier de l'artisan, nous l'appelons en France le compagnon, le nombre moyen de compagnons d'entreprise, lui, tend à augmenter. Autrement dit, l'entreprise artisanale, par son importance, tend à s'agrandir, à augmenter le nombre de ses ouvriers, de ses compagnons. Par contre, le nombre d'entreprises tend légèrement à diminuer. C'est une évolution économique normale que nous retrouvons dans toute l'Europe et probablement ailleurs.
Oui, c'est ça. En agriculture, il y a des solutions diverses pour le problème du petit agriculteur, dont les coopératives, c'est-à-dire les organisations à l'initiative des petits agriculteurs eux-mêmes pour concentrer leurs efforts, coopératives d'achat ou de vente. Est-ce qu'il existe la même chose pour les artisans ou non?
Le problème est extrêmement intéressant. Le mouvement coopératif dans le petit commerce et dans l'artisanat n'a pas tellement de partisans, je dirais. Pourquoi ? Parce que le français moyen, le français artisan, le français petit commerçant est très individualiste. Ceci s'explique d'ailleurs, et je vais vous le dire pourquoi. Prenez les coopératives agricoles en tant que coopératives d'achat. L'agriculteur a besoin de blé, a besoin de semences, a besoin d'engrais. Bon. Ce sont quelques produits sur lequel il n'y a pas à discuter, pas pour les semences bien sûr, mais il n'y a pas à discuter la qualité. Vous voulez du superphosphate pour mettre dans vos terres, vous irez acheter votre superphosphate à droite ou à gauche, ça sera toujours du superphosphate. Par conséquent, ils peuvent tous se mettre d'accord sur le volume, sur l'importance des commandes qu'ils peuvent passer à leur coopérative. Au moment de la répartition, il n'y aura pas de problème. Le sac de superphosphate, celui-ci, est exactement le même que celui-là. En ce qui concerne l'artisanat, la chose est très différente. Il y a d'abord une multitude de métiers. 6 catégories représentant, grosso modo, 130 à 150 activités. Vous voyez déjà la difficulté. Vous pourrez me dire, bien sûr, on peut constituer une coopérative par métier ou par branche professionnelle. Bien sûr. Mais alors là, nous allons retrouver la fabrication diverse et diversifiée de l'artisan. Tel artisan a l'habitude de faire ses meubles avec du chêne. Et ça, depuis 100 ans, 150 ans, il continuera avec du chêne. Du chêne qu'il fait venir de tel endroit, de la forêt de Jupy, ou si c'est du sapin du Jura, il veut quelque chose de personnalisé, n'est-ce pas? Bon. Si tel autre travaille au contraire avec un autre bois, etc. Compte tenu des petites quantités dont chaque entreprise a besoin,
Et compte tenu de la diversité des produits, la coopérative d'achat dans l'artisanat est très difficile. Très difficile. Même commercialement parlant. Voyez-vous ? Ça, c'est un écueil. Il y a une autre forme de coopérative, la coopérative pour entreprendre en commun des travaux. Ceci, par exemple, dans le bâtiment. Nous avons, dans le Loiret, une coopérative artisanale qui traite avec les organismes pour la fabrication, l'édification de pavillons, etc. Et ils se répartissent également le travail entre les coopérateurs. Et cette coopérative marche pas mal, mais il faut que ça reste un peu à l'échelon assez restreint. Les rapports entre ces petites entreprises sont des rapports des rapports humains, des rapports de connaissances d'homme à homme. Il faut avoir confiance les uns dans les autres parce que le maçon va terminer son travail le 1er avril, il faut que le couvreur puisse passer aussitôt après, etc. Il faut donc que les gens aient une confiance, je dirais presque illimitée, entre les coopérateurs. Et ceci ne se trouve pas à de nombreux exemplaires, n'est-ce pas ? Ça reste un petit peu un petit club. Une coopérative de répartition ne peut pas se faire à grande échelle. Mais enfin, ça existe. Ça existe. Avec les difficultés que je viens de vous signaler.
Est-ce que le rôle de la Chambre des métiers est neutre dans cette question ?
Alors, la Chambre des métiers peut susciter, n'est-ce pas, des initiatives, essayer de mettre en selle, si je puis dire, ces organismes. Mais alors après, ils doivent vivre d'une façon indépendante. N'est-ce pas, ils doivent vivre par eux-mêmes. Mais enfin, nous sommes là pour les aider, les conseiller, leur faciliter leurs travaux d'établissement de statut, etc. Une fois en place, il appartient aux professionnels de gérer leur affaire. Car nous ne pouvons pas avoir de rôle commercial.
Je comprends. Est-ce que je pourrais passer maintenant à votre rôle personnel et vous demander comment on vous appelle ici, si vous êtes président de la Chambre ou...
La Chambre de métier est composée de 40 membres. Sur ces 40 membres, il y a 34 artisans maîtres, patrons, et 6 compagnons. Nous sommes encore un des rares organismes à avoir une représentation paritaire. Elle n'est pas paritaire en sens que le nombre est différent, mais nous avons une représentation ouvrière dans notre organisme. Ces 40 membres qui sont élus dans chacune des catégories, n'est-ce pas, les gens de l'alimentation élisent leurs représentants de l'alimentation, les gens du bâtiment élisent leurs représentants du bâtiment, etc. Ces 40 membres forment ce qu'on appelle le conseil d'administration de la Chambre de métiers et qui élit un bureau. Un bureau qui est composé de 10 personnes avec, comme traditionnellement, un président, 2 vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, etc. Tous ces gens-là travaillent, sont chefs d'entreprise et ne peuvent pas, par conséquent, assumer la marche quotidienne d'une chambre de métier. Il y a donc du personnel administratif et il y a à la tête des chambres de métier une personne qu'on appelle le secrétaire général. J'occupe cette fonction à la chambre de métier et je suis le directeur de la maison. Il n'empêche que le président vient une ou deux fois par semaine, c'est lui qui signe le courrier. Je dois exécuter les décisions du bureau, mais je suis le responsable de l'exécution des décisions prises par la chambre de métier.
Et si vous permettez que je vous pose la question, quelle a été votre formation pour ce rôle? Vous êtes surtout un administrateur ou est-ce que vous avez fait vous-même un artisanat ou autre chose?
L'origine des... Il faut dire que l'artisanat l'organisation administrative de l'artisanat est en France quelque chose de relativement récent. Les chambres de métiers ont été créées en 1925, alors que les chambres de commerce remontent au XVe siècle, n'est-ce pas ? Peut-être même plus haut. Et par conséquent, nous n'avons pas encore une grande tradition administrative. Et on pourrait presque dire même que ces chambres de métiers mises en place en 1925 ont été, je dirais, en sommeil jusqu'en 1940. Car en 1940, il n'y avait pas encore des chambres de métiers dans tous les départements. Voyez-vous, alors à partir du moment où une administration n'est pas encore en place sur tout le territoire, on ne peut pas dire qu'il y ait une structure administrative complète. Ce sont malheureusement les événements de 1940. Que vous connaissez, n'est-ce pas, que nous y avions été étroitement associés, qui ont, parce que les besoins se faisaient sentir, que tout était rare, qu'il fallait tirer parti de tout, qu'il fallait raccommoder tout, qu'on ne pouvait plus faire de neuf, qu'il fallait vivre avec ce que nous avions. Ça a été, si vous voulez, un petit peu une des causes de reprise de vie de l'artisan. Alors, si bien que, il n'y a pas de tradition administrative et les directeurs des chambres de métiers actuels viennent un petit peu de tous les horizons. C'est un petit peu, il faut bien le dire, le hasard qui a fait qu'on est devenu directeur de chambres de métiers. Il y en a qui sont d'origine professionnelle, il y en a d'autres qui sont d'origine étudiante, c'est mon cas. Et où, personnellement, j'ai fait mes études de droit, j'ai même fait mes études notariales. La place de secrétaire de chambre de métier étant disponible à l'époque, je me suis présenté et je suis devenu secrétaire général. J'ai dû, bien sûr, me familiariser avec tous les métiers, avec tous les termes techniques. Et maintenant, sans être un professionnel, je puis discuter avec un professionnel en employant ses termes, en sachant et en connaissant ses besoins, ses difficultés. Mm-hmm. Mais il y a 30 ans que je suis ici.
Ah oui. Alors, en quoi consiste donc votre travail ? Vous dites, vous discutez sans doute souvent avec...
Alors, bien sûr. Alors, j'ai d'une part, si vous voulez, une tâche administrative, n'est-ce pas ? Exécuter les décisions... et une tâche de conseil, une tâche de promoteur, si je puis dire, n'est-ce pas ? Je présente au bureau des activités, et je leur propose des programmes de gestion, comme je l'ai fait pour notre assistant technique des métiers. Je suis en même temps directeur du personnel. Je suis en même temps responsable de la comptabilité. J'assume en assez grande partie également un rôle de représentation, c'est-à-dire que je représente la chambre de métiers dans toutes les commissions, dans tous les groupes de travail où il est question de l'artisanat, sur le plan économique ou sur le plan professionnel. Dans une certaine mesure, je double un petit peu le président pour tout ce qui est technique. N'est-ce pas, la conduite politique de la chambre de métiers appartenant au conseil d'administration. Mais tout ce qui est organisation matérielle, organisation des services, initiative, programme, comptabilité, etc., c'est du ressort du secrétaire général. Je reçois également beaucoup d'artisans que je conseille pour le financement de leurs investissements, les crédits dont ils peuvent avoir besoin, je les dirige vers les organismes bancaires, je les conseille également sur les baux, le bail commercial qu'ils ont avec le propriétaire de la maison, etc. Nous sommes en même temps organismes de renseignement pour tout ce qui peut intéresser et toucher l'artisan. Puis alors il y a toute la correspondance. Alors j'assume en même temps la direction du service de l'apprentissage et des chefs de service. J'ai un chef de service au répertoire des métiers qui tient le répertoire des métiers, un chef de service pour l'apprentissage, pour tous les contrats, pour tous les examens, et j'ai également un directeur des cours professionnels. C'est lui qui assume toute la partie pédagogique de nos cours, puisque nous avons 120 professeurs.
120 professeurs.
120 professeurs.
Oui. Financés également par cette taxe dont
alors, vous avez parlé. Alors, en ce qui concerne les professeurs qui appartiennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la section d'éducation professionnelle, scolarité obligatoire, ils sont pris totalement en charge par l'État. Oui. L'État nous verse l'argent et c'est nous qui les payons. Mais en totalité, pris en charge par l'État, c'est normal, c'est la scolarité obligatoire. Alors, pour les cours professionnels, nous avons une partie de subvention et une partie des fonds qui provient justement de la taxe que nous verse chaque patron artisan, que nous prenons sur nos propres fonds. Et puis alors, il y a l'autre service, service assistance technique des métiers. Alors, organisation de cours de gestion, de comptabilité, de conduite du travail, prix de revient également, qui dépend, tous ces services-là sont rattachés au secrétariat général. J'assume au fond la liaison entre le conseil d'administration et les services administratifs, entre le conseil d'administration et les artisans. Je représente en partie la chambre de métier chaque fois qu'il s'agit de questions techniques, n'est-ce pas ? Et je fais en même temps l'agent de renseignement auprès de tous ceux qui viennent nous consulter, soit par écrit, soit par oral. Avec les questions les plus diverses.
Des rôles donc multiples.
Ah oui, très très variés, très variés, même conseils pour règlement de succession, pour à la suite d'un décès.
Pour la suite de cet enregistrement, tournez la bande, s'il vous plaît. Quatre, un, quatre, suite.
Par du mal à survivre, pour différentes raisons d'ailleurs, parce que l'évolution économique est, comme je vous le disais tout à l'heure, à la concentration. Nous avons bien sûr les supermarchés. Eh bien, les supermarchés vont causer la disparition de dizaines de milliers d'entreprises, n'est-ce pas ? Nous avons la concentration industrielle également. Nous avons des travaux maintenant, des travaux, disons, genre travaux publics qui ne sont plus à la mesure de nos petites entreprises. Il y a cela, et puis il y a également que les petites entreprises qui, dans certains cas, travaillent encore comme on travaillait il y a 50 ans, doivent s'adapter, doivent se moderniser, doivent se mouler, se couler dans le moule de l'économie actuelle. C'est peut-être ma vocation, mais... je ne pense pas que l'artisanat avec la petite entreprise soit sur le point de disparaître. Je ne pense absolument pas. Absolument pas. Leur nombre, je vous l'ai dit, leur nombre vraisemblablement diminuera. Mais leur importance augmentera. Et que d'ici quelques années, nous n'aurons plus de gens travaillant seuls. C'est plus possible maintenant de travailler seul. On ne peut plus à la fois être à l'établi et à son bureau. Or, maintenant, l'artisan doit être à son bureau, avec toutes les formalités qu'il a à remplir, avec la correspondance de ses clients, avec ses commandes de matières premières, ses réunions de syndicats ou de professions, etc. Il ne peut pas être aux deux à la fois. Donc, pour toutes ces considérations-là, le nombre d'ouvriers, le nombre de compagnons de l'entreprise artisanale doit augmenter. Très certainement. Et nous allons vers une évolution, vers une diminution du nombre des entreprises, mais une augmentation de leur importance moyenne. C'est ce qui se passe en Allemagne, d'ailleurs. Et c'est un phénomène normal. Car maintenant, pour qu'une entreprise soit rentable, il faut que le travail soit rationalisé, qu'il soit presque, je dirais, compartimenté. Si vous êtes tout seul, vous pouvez pas le faire. N'est-ce pas? Il faut donc que l'entreprise, la petite entreprise, se transforme complètement. Et qu'on ne travaille plus au hasard, suivant le client qui se présente, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des prévisions, il faut qu'il y ait des ordres de marche de l'entreprise, ce qu'on appelle un tableau de bord, n'est-ce pas?
Vous ne pensez pas donc qu'il y a un risque que les petits soient absorbés?
Non, je ne le crois, mais vraiment pas. Non. Je vous dis non pas seulement parce que c'est ma vocation de les défendre. Je pourrais les défendre sans trop y croire, bien sûr. Mais j'y crois fermement. Je regarde tout de même un peu ce qui se passe ailleurs et hors de nos frontières. Prenez l'Amérique que l'on a considérée comme un pays super industrialisé. Eh bien, l'Amérique a des centaines de milliers de petites entreprises. Et la General Motors, qui est pourtant une maison très importante, a près de 40 000 petites entreprises qui travaillent pour elle. Ne faisant-elle pratiquement que l'assemblage de toutes les pièces qui ont été fabriquées dans de petites entreprises de 3, 4 ou 5 ouvriers. Car ces gens-là ont intérêt à confier à de petites entreprises ces pièces détachées. C'est leur intérêt. Car la petite entreprise a un rythme de travail qui n'est pas celui de la grande. Je vous disais tout à l'heure que l'artisan devait être responsable de la fabrication de ce qui sort. Eh bien, bien sûr, celui qui a 4 ou 5 ouvriers et qui travaille pour General Motors se doit de fournir à General Motors des pièces de première qualité. Ça ne sera pas du tout venant, ça sera... voyez-vous. Par conséquent, je vois très bien la petite entreprise et la grande entreprise... travailler de concert, n'est-ce pas? Travailler ensemble l'une pour l'autre, tout en gardant leur indépendance.
Ah, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que c'est vraiment une indépendance d'être dépendant du grand?
Alors là, nous abordons un problème très important qui est celui de la sous-traitance, ce qu'on appelle la sous-traitance. C'est-à-dire une entreprise prend un marché et puis ne peut pas l'exécuter elle-même et redonne à de petites entreprises qu'elle répartit le marché et le confie à plusieurs entreprises. Tout dépend dans l'esprit dans lequel ça a été fait. Si c'est dans l'esprit de lucre, c'est-à-dire pour l'entreprise de prendre un marché et de le répartir et au passage de prélever son bénéfice sans avoir effectué elle-même les travaux, ça ne peut pas marcher. Il n'y a qu'une partie des travaux qui est confiée aux petites entreprises parce que l'entreprise, pour des raisons quelconques, de surcharge ou autre, se voit momentanément ou d'une façon normale dans l'obligation de se décharger d'une partie de ses travaux, là peut s'établir un lien entre les deux entreprises, un lien qui peut être très intéressant à condition que les intérêts des deux parties soient respectés et qu'il y ait des contrats de passé. Contrats de passé qui prévoiront d'abord que les contrats s'échelonneront pendant une certaine période. On ne peut pas mobiliser une petite entreprise qui devra se consacrer entièrement à ce seul client. On ne peut pas la mobiliser pendant 6 mois, puis lui dire après, moi c'est fini, j'ai plus besoin de toi. Voyez-vous? Alors, il faut donc faire des marchés sur un certain nombre d'années, d'une importance fixée, avec des délais bien arrêtés, bien précis, et des conditions de rémunération convenables. C'est une question très importante puisqu'elle fait l'objet à Bruxelles d'études des pays du marché commun qui voudraient établir un traité de sous-traitance pour l'ensemble des 6 pays du marché commun. Voyez-vous ? Parce que c'est très important. Mais ça peut être pour la petite entreprise qui a un marché de 5 ans conclu avec telle grosse firme, quelque chose de très intéressant. Elle est assurée pendant 5 ans d'avoir du travail pour son personnel. C'est magnifique. Et là, voyez-vous, c'est une formule qui n'a pas encore pris.
En France, vous voulez dire ?
Ça n'a pas encore pris beaucoup. Les gens hésitent. Les gens hésitent et puis alors, nous avons parlé de l'individualisme et du particularisme de l'artisan. L'artisan, les dates, il ne connaît pas toujours ça. On doit vous venir livrer votre porte aujourd'hui, ben ça sera peut-être que demain. Parce que précisément, c'est une petite entreprise et qu'il a pu avoir une surcharge de travail et il n'a pas pu faire face. Il occupe du personnel qualifié. Il ne peut pas recruter, comme dans l'industrie, des manœuvres du jour au lendemain qui pourront faire le travail de la machine et qui pourront augmenter le rendement de l'entreprise. Dans l'artisanat, on ne peut pas. Il n'y a pas d'ouvriers ébénistes ou d'ouvriers mécaniciens qui sont là et qui attendent qu'on vienne les chercher. Voyez-vous ? Alors l'artisan peut se trouver donc surchargé de travail à un moment donné, ben, puis les dates de livraison ne sont pas respectées. Or, dans la sous-traitance, l'usine, elle, a son planning. Tel jour à telle heure, la livraison doit être faite. Il faut donc qu'elle soit sûre que pour la date prévue, le marché sera livré. Alors là, il y a toute une formation psychologique des grandes entreprises qui hésitent à donner aux petites et des petites qui se méfient des grandes. Il y a un climat de coopération et nous en avons déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec la Chambre de commerce d'Orléans qui serait toute prête à se mettre ensemble pour favoriser ces rapports de petites et grandes entreprises qui peuvent se rendre des services énormes. Énorme. Alors voyez-vous, ça c'est des aspects très rassurants de la petite entreprise. Car, je vous dis, l'Amérique est couverte d'ateliers artisanaux. On pourrait croire, n'est-ce pas, on parle toujours du gigantisme américain, mais il n'est pas tel qu'on se le figure. Le nombre d'entreprises qui dépassent 100 ouvriers, mais je dirais presque infime. La majorité sont des petites entreprises aussi. Or, quand un pays comme l'Amérique endure ou supporte, si vous voulez, l'économie de petites entreprises, croyez-moi.
Oui. Il n'y a aucun danger, vous voulez dire, pour la France.
Bien sûr. Et il faut croire que c'est rentable également.
Oui.
Pour les deux. Je crois que c'est ça qu'il faut viser. Il ne faut plus viser à tel secteur, etc. Il faut une coopération. Or, le secteur des métiers peut rendre des services énormes à l'industrie. Mais avec cette condition, qu'il y ait des liens très bien établis et que la petite entreprise ne soit pas à la merci de la grande. Voyez-vous ? C'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles je crois au secteur de métier. Et puis alors, il y a tout le secteur artistique, et puis alors tout le secteur du sur-mesure, n'est-ce pas ? Vous avez encore une clientèle qui veut que l'on fabrique quelque chose pour elle, suivant ses plans, suivant ses données, suivant ses besoins. Ça existe encore, ça. Vous avez tout le secteur de l'alimentation. C'est vital, on ne peut pas dire le contraire. Il y a aussi autre chose, un autre aspect qui me réjouit pour l'artisanat. C'est que l'artisanat, voyez-vous, une de mes raisons d'y croire, c'est qu'il satisfait des besoins naturels. On est obligé de manger, on est obligé de se vêtir, on est obligé de se chausser, on est obligé de se loger. Ce sont des besoins naturels et obligatoires. Deuxièmement, L'artisanat doit être à la portée de son client. Vous ne pouvez pas faire 10 km pour aller chercher votre pain. Vous ne pouvez pas faire 20 km pour faire réparer votre voiture. Si vous êtes en panne, vous ne les ferez pas, vos 20 km, pas plus que vos 5, pas plus que vos 3. La force de l'artisanat, c'est dans chaque quartier de satisfaire des besoins élémentaires de la population de ce quartier. Bien sûr, vous me direz, il y a les grands ensembles commerciaux.
Les SUMA.
Les SUMA. Oui. Bon. J'en ai parlé longuement avec notre assistant technique des métiers. On peut concevoir que la ménagère, qui est la principale cliente, puisse venir une fois par semaine avec la voiture, faire son ravitaillement, etc. Et on peut concevoir qu'elle habite à même 20 km du centre commercial. Le lendemain, il y a la paire de chaussures de l'enfant qui est usée, il faut les faire ressemeler. Il y a la panne d'électricité, il y a la fuite d'eau. Ce n'est pas à 20 km que vous irez chercher le réparateur. Il soit sur place. Vous ne ferez pas 20 km pour aller faire un essayage chez la couturière. Ça fait 20 et 20, 40. Puis 3 ou 4 fois. Par conséquent, la force de l'artisan, c'est d'être à la disposition de ses clients dans son quartier. Car voyez-vous, et à prix même un petit peu plus cher, les gens préféreront venir chez l'artisan du coin qu'ils connaissent très bien, plutôt que d'aller dans un grand ensemble où ils seront servis par une personne qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaîtra pas non plus les besoins de sa cliente, qui lui dira bonjour, bonsoir, mais qui... lui demandera pas des nouvelles de son enfant, si l'enfant était malade ou quelque chose comme ça. Il y a tout un aspect psychologique qui joue beaucoup. Ma femme qui va chez l'épicier tous les jours me dit, mais j'apprends toutes les nouvelles du quartier. C'est pas au titre de concierge qu'elle le fait, car elle n'est pas concierge. Mais elle apprend ce qui se passe autour d'elle, n'est-ce pas? Si elle a besoin d'une femme de ménage, elle va le dire à l'épicière. Qui va le dire à ses clients, parce qu'il y a une autre cliente qui va lui dire, dedans, si vous connaissez quelqu'un dans le coin qui a besoin d'une femme ménage 2 heures par jour, je le ferai bien. Et voyez-vous, alors ça, c'est plus l'aspect économique, c'est l'aspect de l'homme. On ne peut plus vivre, on n'a pas le droit même, je dis, de vivre isolé, même dans son appartement, dans sa pièce, en ne sachant pas qui est de l'autre côté de la cloison. C'est pas normal, c'est pas humain. Eh bien, ces petites entreprises dans le quartier donnent cet aspect humain à la vie du quartier. Et les conversations que vous entendrez entre les clients, entre les clientes, dans une petite entreprise, vous ne les retrouverez pas dans le grand magasin. Car les clients ne se connaissent pas dans le grand magasin. Or, à moins qu'on transforme l'homme en un robot, en un producteur, et exclusivement producteur, qu'on ne voit plus en lui que l'aspect de rentabilité de ce que l'on peut sortir de l'individu, n'est-ce pas, si heureux, si ce que je souhaite, on n'arrive jamais à cette conception la plus basse qui soit de l'homme, et qu'on veuille que les hommes aient encore entre eux des rapports d'hommes, je crois que l'artisanat peut jouer un rôle primordial et tout à fait à côté du service économique qu'il peut rendre à la nation.
Bien.
En tant que client, en tant que Français, en tant qu'homme, à côté de l'aspect économique. Oui. Mais à mon avis, c'est le jour où plus personne ne se connaîtra, etc. Mais ça sera épouvantable de vivre.
D'accord, entièrement.
Ce sera épouvantable. Eh bien, ces petites entreprises, et alors là, le petit commerce joue le même rôle. Le petit commerce joue le même rôle. Mais alors, par contre, si ces petites entreprises veulent appartenir à des chaînes d'achat, pas, et si elles peuvent presque concurrencer le SUMA, s'il y a une petite différence, ça n'a pas d'importance, il sera compensé par d'autres avantages. Par conséquent, je crois encore à l'artisanat et même au petit commerce, à condition qu'ils veuillent bien se réformer. Or, on ne les sauvera pas malgré eux. Il faut qu'ils soient consentants, il faut qu'ils fassent les efforts nécessaires. Moyennant quoi, ils doivent survivre.